Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois de mars. Donc, avec moi pour animer l'émission, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir, cher auditeur.
Qui fait le plaisir de revenir.
Ça faisait longtemps.
Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue avec nous. Et puis, il y a Rodan qui est en train de terminer de préparer ses outils techniques. Voilà.
Bonsoir.
Et puis, il y a moi, comme je dis d'habitude, moi.
Didier. Et le moi. Alors, c'est Didier. Voilà. Vous vous en rappelez quand même.
Bon. Au menu ce soir, comme d'habitude, beaucoup de choses. On va parler de solidarité, bien sûr. Les droits humains et solidarité, c'est un couple qui est indispensable. On va parler d'ONG qui ont des soucis en Israël. On va parler d'Amérique du Sud. C'est Ronan qui va vous en parler. On va faire une chronique culturelle et de livres, parce que Mina est avec nous, avec sa spécialité. Et puis, on va vous parler de réfugiés, etc., etc. Bref, restez avec nous, et bien sûr d'infos locales, restez avec nous jusqu'à 20h. Et puis, sinon, vous nous réécoutez sur les podcasts. On vous rappelle que les podcasts sont disponibles sur le site, dès le soir même, ou plus tard le lendemain de l'émission. Voilà. On parlait de solidarité. Ben oui, les droits humains et les solidarités, c'est un peu les deux jambes qui nous permettent d'avancer, quoi, c'est clair. Et je réfléchissais à ça en pensant à l'émission aujourd'hui. Je me disais, ben, imaginons un monde sans solidarité. Alors, on va prendre des exemples simples. Vous avez un souci mécanique avec votre voiture ou vous crevez, peu importe. Et imaginez que ben, les gens passent à côté de vous et vous regardent et personne s'arrête, personne cherche à vous rendre service. C'est un exemple. Imaginez que vous n'avez plus d'endroit pour dormir. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Vous n'avez plus d'endroit pour dormir et que vous êtes dans une situation de précarité complète. Eh bien, malheureusement, c'est ce qui arrive et tout le monde s'en fout. Personne ne fait rien. Vous avez faim, personne ne s'en occupe non plus. Vous êtes malade, vous avez besoin de traitements médicaux. Eh bien, si vous avez de l'argent pour vous faire soigner, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, eh bien que vous restez avec vos ennuis médicaux. Vous avez des enfants, vous avez les moyens de les envoyer à l'école, qui évidemment sont toutes payantes dans ce cas-là. Et eh bien, donc ils auront droit à accéder à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, voire plus si c'est possible. Vous n'avez pas les moyens, eh bien ces enfants-là, effectivement, resteront à ne même pas pouvoir apprendre ou à apprendre dans des conditions déplorables. Donc un monde sans solidarité, quand il y a des gens qui nous prônent l'individualisme qui est très à la mode, un monde sans solidarité, ça pourrait aussi ressembler à ça. Donc je pense pas que ça fasse vraiment très envie. Donc quand on parle de coûts, de charges sociales, etc., etc., ça sert aussi à financer tout ça et ça sert aussi à développer la solidarité. Bien sûr, il y a les cotisations imposées, puis il y a toutes les démarches volontaires, des gens qui militent, des gens qui s'investissent, et tout ça, ça permet de faire une société qui ressemble un peu à autre chose qu'une jungle. Voilà. Donc c'était mes réflexions du jour. Et puis pour illustrer ça, ben on va vous passer la voix de quelqu'un dont on vous a déjà parlé dans les émissions, qui s'appelle Martine Landry, qui est militante d'Amnesty à Nice et qui est bien embêtée en ce moment puisqu'elle est toujours en attente d'un procès. La prochaine audience, c'est le 11 avril et elle est toujours poursuivie pour délit de solidarité. Quand on parlait de solidarité, et faire de la solidarité un délit, c'est quand même le comble de l'absurde, pour ne pas dire pire. Et donc Martine, eh bien, elle est passée dans une émission de radio. Alors c'est très humoristique, une émission de radio qui est à France Inter, qui s'appelle, je ne sais plus exactement le nom de l'émission.
À 5h de l'après-midi.
À 5h de l'après-midi, voilà. Et c'est quelqu'un que vous avez entendu le mois dernier qui va faire son interview. Et il s'appelle Guillaume Meurice et il participe à l'émission. Ça dure quelques minutes, mais c'est très drôle et vous allez entendre la voix de Martine.
Éric Valmire, c'est donc Guillaume Meurice qui a lu votre ouvrage, qui a fait l'interview au début de l'émission.
Je crois qu'il a posé une question.
Il a quelques galons de journalisme qu'il acquiert sur le terrain.
C'est vrai.
Bien sûr.
Il est remonté le terrain, comme
on dit. Empirique. Et oui. Il va vous prouver tout de suite que ça porte ses fruits.
Peut-être je vais essayer de me faire embaucher, on va voir. Je vais vous parler des retraites aujourd'hui. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs manières assez diverses d'occuper son temps libre. On sait que les personnes âgées aiment bien aller, par exemple, au spectacle d'Alex Vizorek. On les voit beaucoup là-bas. Il y a des personnes âgées qui font des chroniques littéraires sur France Inter, notamment. Il y en a d'autres qui s'occupent en gazant des réfugiés. C'est le cas de Gérard Collomb. Humanité et fermeté, hein, comme on l'appelle au club sadomaso, le fucking taser de la place Beauvau. Et puis, il y a des retraités comme Martine Landry. Alors, Martine, elle s'occupe en aidant des réfugiés dans le sud-est de la France, à la frontière italienne, là où elle habite. Et elle est poursuivie pour délit de solidarité. Alors, moi, comme je suis passionné par la délinquance, hein, c'est vrai, ça vous le savez, j'ai un CAP Bernard de la Villardière, je l'ai contacté ce matin. Alors, Martine, pour avoir aidé deux migrants, elle risque 30 000 euros d'amende et 5 ans de prison. C'est bien ça, Martine ?
Voilà, c'est ça. Bon, alors...
Mais c'est là qu'on se rend compte que vous auriez fait un abus de bien social à Levallois-Perret. C'était moins risqué, en fait.
Eh bien, moi, je vois d'autres jeunes, d'autres personnes, qui, dans la Roya, n'ont pas franchi de frontière. Ouais. Ils ont simplement transporté des personnes d'une ville à l'autre. Par exemple, il a 19 ans. Il a écopé de 4 mois parce qu'il y avait 4 migrants dans sa voiture.
Eh oui, mais parce qu'il ne respecte pas la tradition française de non-accueil des gens.
Voilà, c'est ça.
Ben oui, mais c'est quand même fou, ça. L'identité française, merde, c'est une histoire. Vichy, c'est pas seulement des cures thermales et des pastilles, bordel. C'est une tradition, des valeurs, travail, famille, Patrick, notamment Balkany. Donc voilà, même à 19 ans, ils ne respectent rien. Alors les retraités, on n'en parle même pas. D'où ma seconde question. Pourquoi vous ne faites pas plutôt des activités de retraités comme le bridge ou regarder Question pour un champion?
Non, c'est le contraire. Toute ma vie, j'ai jamais pu faire ce que j'avais envie de faire. Ah. Et depuis l'an 2000, j'ai pu enfin faire quelque chose qui me plaisait.
Mais plutôt faites du macramé ou des choses comme ça, Martine.
Oui, mais alors ça, non, franchement, c'est pas mon truc.
Oh, mais c'est pas mon truc, Martine. Enfin, mais vous imaginez si toutes les personnes âgées de France abandonnaient leur activité pour aider des réfugiés? Dans quel pays on vivrait? Déjà, il y aurait plus l'auditeur sur France Musique. C'est ça, mais c'est ça qu'on veut. Voilà, il faut penser service public à un moment donné. Bon, Martine, elle pense plus évidemment réfugiée. Elle est donc soupçonnée d'avoir fait franchir la frontière à deux mineurs.
Si je n'avais pas été là, les policiers français n'auraient pas tenu compte des documents qu'ils avaient sur eux. Et ils auraient mis dans le train pour l'Italie. Ce qu'ils avaient déjà fait trois fois pour ces deux-là.
Remarquez, ils font des voyages gratuits pour la jeunesse.
Voilà, oui. C'est vrai que le train entre Vatimini et Menton, c'est très joli.
Faut arrêter de se plaindre. Ça, c'est bien les jeunes. Ça, ils sont tout le temps là à se plaindre. Alors qu'on les renvoie en Italie, voilà, ils font le voyage plein de fois. C'est joli. Et puis, je vais vous dire un truc. Non, mais être français, à un moment donné, ça se mérite. Moi, j'ai vécu à côté de Vesoul, hein, presque toute mon adolescence. Vous croyez que j'en ai pas chié, moi? À côté, Damas, c'est un club de vacances. Je vous dis tout de suite. Hein. Alors Martine, elle dit qu'elle n'aura pas fait vraiment franchir la frontière. Qu'elle était juste au niveau du panneau. Explication.
On les fait aller de la frontière à l'autre en leur disant la France c'est par ici, ou les autres ils disent Vatimini c'est par là.
Mais alors vous étiez de quel côté du panneau?
Non, là j'étais au poste frontière. J'ai dit non, attendez, moi je les attends au panneau France. Voilà.
Ah oui, mais de quel côté?
Je les ai attendus. Ils arrivent au panneau France pour les emmener au poste frontière.
Il faut faire gaffe parce qu'il y a une frontière, c'est assez précis. Par exemple, à un mètre près, on est champion du monde de foot en 2006 quand même. Hein. Et là, on est juste champion de free fight à base de coups de tête balayette. Alors je sais que voilà, Éric Valmire, notre invité, s'emmerde pas avec ça, hein, puisqu'il bouffe à tous les râteliers Italie-France. Hein, il se fait des sandwichs cassoulet mozzarella, des cocktails limoncello Beaujolais. Mais quand même, les plaies du métissage, n'oublions pas que ça nous emmène des gars comme Éric Ciotti. Je vous le rappelle ça. Et des gars comme Manuel Valls.
Oui, des catalans, il paraît.
Ben oui.
Oui, mais c'était du temps où on accueillait les économiques. Ça semble bien. Hein.
Ben c'est ça, mais maintenant on l'a naturalisé, puis on ne sait plus comment s'en débarrasser. Alors est-ce que c'est une bonne idée, Martine, de laisser rentrer tous ces gens?
Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que je trouve que dans tous ces gens que je vois du côté de Vatimini, il y a des gens fabuleux.
Il n'y a pas que des Manuel Valls, quoi.
Voilà.
Ah oui, ouais. Bon, c'est vrai qu'en même temps, si on expulse tous les racistes de France, bon, déjà, je vais être emmerdé pour faire la majorité de mes chroniques. Puis ça fait quand même pas mal de monde. Puis il leur faudrait un pays, quoi, je sais pas, le racistant. Bon, c'est compliqué quand même géopolitiquement. En attendant, j'ai quand même cherché à en savoir plus sur ce qui motive vraiment Martine. Est-ce qu'elle fait pas ça pour emmerder Macron, hein, qui est quand même en train de bien défoncer les retraites?
D'abord, moi je paye pas d'impôts parce que j'ai une tellement petite retraite.
Ah bah bravo Martine,
bien sûr. Voilà, moi je paye pas d'impôts. Donc je paye des CSG par contre, je paye des trucs. Mais franchement, c'est pas ça qui m'a.
Oui, c'est pas ça qui la motive, admettons. Mais alors quoi? Eh bien, je vais vous dire, j'avais une piste. Parce que Martine, elle a quasiment le même âge que Gérard Collomb. Hein, n'est-ce pas?
Ah, oui.
Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu amoureuse secrètement de Gérard Collomb et c'est une manière de se rapprocher de lui?
Quelle horreur.
Ah, voilà. Je crois que le silence avant le quelle horreur est encore plus parlant que le quelle horreur en lui-même. Bon, toujours est-il que le procès de Martine a été repoussé en avril, hein, qu'en attendant, elle continue à aider les réfugiés et à être engagée aux côtés d'Amnesty International. Alors après, Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine fait de l'humanitaire, Martine en garde à vue, Martine au tribunal. Je sais pas vous, mais je serais assez favorable d'essayer Martine au gouvernement.
Oui, voilà, merci Guillaume Meurice. Et on embrasse très fort Martine.
Oui, parce qu'on sait tous Martine.
On sait qu'elle nous écoute régulièrement parce qu'on est écouté régulièrement par beaucoup de délinquants. comme Cédric Héroux, compagnie, puis plein d'auditeurs délinquants qui aident les gens.
Donc voilà, c'était une petite chronique très humoristique, mais très bien vue, effectivement. Et encore une fois, puisque Martine nous écoute aussi, et qu'elle est au courant qu'on fait de la radio et qu'on met des podcasts en ligne, on t'embrasse bien fort, Martine aussi, nous-mêmes. Voilà. Et puis, en parlant de droit,
oui, de droit et de délinquants,
il y a Edith qui voulait vous dire quelques mots.
Voilà, moi j'ai vu que la ville de Lille, alors vous voyez, Lille, effectivement, c'est pas le pays de Martine près de la frontière italienne, c'est un peu plus dans le nord.
C'est l'autre frontière.
La ville de Lille a été condamnée. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé. Alors les Roms ont des droits comme les autres citoyens. Et la justice l'a vertement rappelé à la ville de Lille et à la préfecture du Nord, qui ont été condamnés le 6 février dernier pour une expulsion de plusieurs familles roms installées sur un terrain proche du pont royal. En novembre 2017, en début de trêve hivernale, une quinzaine de personnes, dont 8 enfants, étaient contraintes par les forces de la police municipale et nationale d'abandonner leur cabane immédiatement mise à la casse. 2 jours plus tard, Martine Aubry, maire de Lille, a approuvé cette évacuation. Un couple de Roms, Daniel Covacci et Geonima Dracuzone, soutenu par 5 associations dont Amnesty, a saisi le tribunal de grande instance de Lille en référé. Des Roms qui commencent à demander justice, c'est un phénomène nouveau, se réjouit Pierre Tourbier, militant d'Amnesty auprès des Roms dans le Nord. Devant le juge, l'avocat de la ville, comme son confrère défenseur de la préfecture, ont botté en touche, prétendant n'y être pour rien. Un déni rapidement mis à mal grâce aux photos et vidéos montrant des policiers et services de la ville accompagnés de tractopelles en train d'évacuer le campement. Quant à l'invocation de délit de flagrance qui permet d'inviter des personnes présentes sur un terrain litigieux à quitter les lieux dans les 48 heures, maître Muriel Rueff, l'avocate du couple de Roms, a eu beau jeu de railler l'inanité de cette invitation. Certes, l'indemnité accordée au couple, 1000 euros par plaignant, est minime et la demande de réintégration des lieux a été refusée. Reste que le jugement final affirme avec force. Aucun texte ne permettait à l'État ni à la commune de procéder à la moindre expulsion sans autorisation judiciaire. Voilà.
Donc, c'est les autorités municipales de... Tu nous rappelles où c'était ?
C'est à Lille. Et c'est sur un terrain municipal, si j'ai bien suivi d'autres informations.
Qui se sont fait attraper, quoi, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'expulser des gens tant qu'il n'y a pas eu de jugement.
C'est ça.
Et encore plus pendant la trêve hivernale.
C'est ça.
Et des familles avec des enfants.
Exactement.
Voilà.
Et ça me rappelle ce que nous rappelle souvent Christian du groupe Amnesty Évreux, les problèmes par rapport aux réfugiés, aux migrants à Ouistreham et leur interdiction du droit à l'eau. Donc voilà, jusqu'à présent, la ville de Ouistreham refuse à ces gens-là le fait de pouvoir disposer d'un simple robinet pour boire, pour se laver, enfin, etc. Il y a des femmes et des enfants parmi eux, donc comment peut-on interdire, et des hommes bien sûr, comment peut-on interdire à des êtres humains de ne pas accéder à de l'eau ? Il faut quand même oser le faire. Donc on continuera à agir vis-à-vis de cette municipalité aussi. Je crois, Edith, que tu voulais aussi nous parler de soucis d'organisations non gouvernementales, comme Amnesty par exemple,
oui, y a...
et d'un certain État qui s'appelle Israël.
Il y a une dérive dont on vous a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux États qui sont en train de créer des lois pour empêcher les ONG de travailler dans leur pays. Alors, c'est des lois sur savoir si leur, l'argent qui vient peut-être de l'étranger, peut-être aussi qu'ils sont considérés comme des personnes qui peuvent être dangereuses. Donc, il y a la Russie, il y a la Hongrie, hein, qui ont déjà sorti des lois pour établir des listes noires d'ONG étrangères.
Il y en a malheureusement de plus en plus qui utilisent cet argument-là d'État.
Et là, c'est le gouvernement israélien qui s'attaque désormais à des organisations qui militent pour le respect du droit international et surtout pour le droit des Palestiniens. Et les autorités israéliennes cherchent manifestement à faire taire toutes les voix qui critiquent leur politique dans les territoires occupés. Elles viennent de publier une liste noire d'organisations étrangères, et notamment françaises, qui sont désormais interdites d'entrer sur le territoire israélien. C'est une atteinte nouvelle flagrante des droits à la liberté d'expression et d'association des défenseurs des droits humains en Israël et dans les territoires occupés. Il y a, donc ça date du 7 janvier 2018, 21 organisations étrangères qui ont été placées sur cette liste. Deux organisations non gouvernementales françaises, BDS France, j'avoue que je ne connais pas, et Association France-Palestine Solidarité. Et là, je ne connais plus.
BDS France, c'est l'organisme qui s'occupe du boycott des produits fabriqués dans les colonies israéliennes.
Eh bien oui, effectivement. Donc c'est tout à fait ça aussi.
On t'aura un jour, Didier.
Parce qu'il révise avant. Moi, je ne devrais pas lui donner les thèmes sur lesquels on travaille. Non, qu'il révise.
Je n'ai pas révisé ça parce que je ne savais pas que tu allais parler de ça jusqu'à tout à l'heure. Mais bon, vas-y, continue.
Ouais, donc c'est vraiment une décision qui vise à entraver le travail des organisations de dénonciation de violation des droits humains en les empêchant de rencontrer leurs partenaires en Israël et dans les territoires occupés ou de mettre en place des missions de recherche ou de documentation des faits. Et Israël a déjà des lois qui sont quand même aussi assez limitantes dans les droits d'expression, car il y a eu en 2017 une loi qui a été votée par la Knesset qui interdit l'entrée sur le territoire d'Israël et dans les territoires palestiniens occupés à toute personne, membre ou sympathisante d'organisations appelant au boycott des produits israéliens. Il y avait déjà en 2011 une loi qui, elle, était pour les résidents d'Israël, loi anti-boycott, qui permet de sanctionner tout citoyen israélien ou toute organisation israélienne qui appelle au boycott. Ces deux lois sont contraires à l'obligation d'Israël de garantir la liberté d'expression et la non-discrimination en raison des opinions politiques des personnes concernées. Et d'ailleurs, on peut rappeler une anecdote, c'est qu'en 2017, les autorités israéliennes avaient interdit au rapporteur spécial des Nations Unies et à des représentants d'organisations de défense des droits humains, dont un représentant d'Amnesty, l'entrée sur leur territoire afin de faire obstruction à leur travail sur la situation des droits humains. Voilà où on en est en Israël. Alors, ce qui m'intéressait aussi, j'ai trouvé une petite information sur le site d'Amnesty, c'est qu'est-ce que la France, au niveau contact avec Israël, peut dire de cette position, puisqu'il y a en plus des organisations, des ONG françaises. Alors, les autorités françaises ont certes appelé, entre guillemets, donc je vous donne la phrase, Israël, démocratie attachée au respect de la liberté et des droits fondamentaux, à s'abstenir de toute mesure qui entraverait la liberté d'expression et d'action de la société civile. Mais ce qui nous semble inquiétant, c'est que dans cette même déclaration, la France semble faire une exception pour les organisations appelant au boycott. Alors nous, Amnesty, nous demandons aux organisations françaises, aux autorités françaises, excusez-moi, de dénoncer fermement auprès des autorités israéliennes ces atteintes graves à la liberté d'expression et de demander que les organisations françaises de défense des droits humains puissent continuer à accomplir le travail, y compris en se rendant en Israël et dans les territoires occupés. Et on peut aussi rappeler, alors là, moi, j'avoue que je ne le savais pas. Didier, on va essayer. Alors peut-être que Didier le sait.
Vas-y.
Circulaire du 12 février 2010, dite circulaire Alliot-Marie.
Non, là, je donne ma langue au chat, je ne sais pas.
Eh bien, la France a aussi cette circulaire, donc qui prévoit des sanctions pénales pour les activités d'appel au boycott en France. Et de ce fait, c'est aussi contraire au droit international, tout comme la position des autorités israéliennes.
Et ça s'appelle la circulaire Alliot-Marie.
Voilà.
Elle était encore au gouvernement en 2010.
Il semblerait.
Oui.
Ou alors c'était un cadeau pour elle.
En 2012, tout à fait. J'ignorais effectivement ce point-là complètement. Oui.
Voilà, donc on voit bien que les États aussi se limitent quand même beaucoup de libertés, alors que le boycott, c'est une loi qui est absolument qui est une possibilité de protestation pacifique.
Bon, tout à fait. Et juste pour un complément d'information par rapport à ce que tu viens de dire, Edith, Amnesty France fait campagne actuellement envers les autorités françaises, non pas pour appeler au boycott en tant que tel, mais pour demander l'interdiction des importations
des
produits fabriqués dans les territoires occupés.
Puisque les territoires occupés sont, logiquement, ne devraient pas être occupés.
C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre d'occuper du territoire de façon illégale. Donc on demande l'interdiction d'importation de ces produits-là. En tant que tel, on n'appelle pas au boycott, mais on demande l'interdiction d'importation.
Voilà. Le droit de plaider pour ce mode d'action, on ne se prononce pas dessus, et il doit être protégé par la liberté d'expression.
Bon, tout ça pour dire que les libertés, effectivement, et les droits humains, ça ne s'arrange pas en général. Mais ce sont autant de raisons de continuer à agir.
Donc si vous avez un t-shirt, non, boycott des produits israéliens, vous ne rentrez pas dans le pays. Voilà, c'est intéressant aussi à savoir.
Voilà. Vous le mettez à l'envers, comme ça on ne verra pas ce qui est écrit dessus. quelques notes de musique. Quelques notes de musique.
Papa, he left home today and said he ain't coming back again. Said he ain't gonna be nobody's second best just 'cause mama's got a special kind of friend. Well, Papa, he left home today and said he ain't coming back no more. Said he ain't gonna take no damn backseat and how did mama do him so low. But mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend. Mama's got a true friend and mama's got a girlfriend now. You see, mama don't watch your damn football and your beer drinking just won't do. You're just a staying out late and you're preaching the hate and you never have been true. You see, your mama, she want her somebody, Lord, who would let her be herself. So she's leaving you in your stinky damn ways 'cause she's found somebody else. Mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend. Mama's found a true friend. Mama's got a girlfriend now.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux. Et deuxième partie de l'émission, on vient d'entendre un morceau de Ben Harper qui s'appelle Mama's Got a Girlfriend in English. Alors pour les anglicistes, mais uniquement pour eux parce que je ne traduirai pas, j'ai pensé à ce morceau-là, c'est en fonction de la journée des droits des femmes qu'on a eue récemment, la semaine dernière,
le 8 mars.
Et aussi le droit de la défense des personnes LGBT, puisque en fait cette chanson parle des deux choses en même temps.
En parlant justement de la journée des droits des femmes, ça fait penser à un truc. Je suis allé sur le site d'Amnesty aujourd'hui et il y a 4 vidéos justement par rapport à ça.
Oui,
allez voir.
Tout à voilà, fait. C'est juste pour nous rejoindre d'aller voir.
Je crois que Ronan nous avait concocté quelques bonnes nouvelles.
Alors là, on va partir en Amérique latine. Un accord pour protéger les défenseurs de l'environnement. Le premier accord juridiquement contraignant qui vise à protéger les droits d'accès concernant les questions liées à l'environnement dans 24 pays d'Amérique latine et des Caraïbes vient d'être voté. Une victoire majeure pour les défenseurs des causes environnementales dans la région. Le traité met en œuvre le principe 10 de la déclaration de Rio du sommet de la Terre de 1992 en instaurant des protections pour les droits d'accès à l'information, à la participation publique et à la justice en matière de questions environnementales. Cet accord historique est une avancée fondamentale pour assurer l'accès à l'information, la participation et l'accès à la justice en ce qui concerne les questions d'environnement. Il établit une norme importante afin d'amener les États à rendre des comptes pour la sécurité et la protection des courageux défenseurs des droits liés à l'environnement qui mettent leur vie en danger depuis des années. Le monde entier devrait suivre cet exemple sans précédent. Toutefois, signer un traité ne suffit pas. Les pays de la région doivent prendre des mesures concrètes pour mettre un terme aux menaces et aux attaques souvent meurtrières qui ciblent les militants écologiques. Le traité, dont les lignes directrices ont été conçues par le gouvernement du Chili, du Costa Rica et du Panama, garantit également le droit à un environnement sain et incite les États signataires à mettre en œuvre des administrations chargées de veiller au respect des principes énoncés. Le traité a été salué à travers l'Amérique latine. La signature du traité donc, a été saluée à travers le continent, au Brésil, où 49 défenseurs de l'environnement ont été assassinés en 2016. La Fundação Grupo Esquel Brasil et le collectif Artec 19 ont publié un communiqué commun. Un accord contraignant est essentiel pour nous afin de protéger nos terres et défenseurs de l'environnement qui pourront désormais jouir pleinement des droits inscrits dans ce document. Ce traité pourrait aider le Brésil à inverser la tendance aux lois environnementales régressives, ont-ils fait savoir. Luis Guillermo Solis, le président de Costa Rica, a qualifié ce traité d'un tournant dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la haine. C'est essentiel aussi pour la survie même de notre espèce, le droit à un environnement sain et un droit humain à télécarrer. Donc, selon l'ONG Global Witness, je ne sais pas si vous connaissez.
Si, si, oui, oui.
Au moins 197, je répète bien, 197 défenseurs ont été tués en 2017 dans le monde parce qu'ils se sont mobilisés pour défendre les droits de la terre et à la terre et à l'environnement. L'Amérique latine est la région la plus meurtrière pour ce groupe de défenseurs puisqu'on estime que c'est là qu'ont lieu 60% des homicides. Les 33 États de l'Amérique latine et les Caraïbes ont la possibilité de signer l'accord au siège de l'ONU à New York du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2020.
Bon, on espère qu'ils vont tous signer. Hein.
Et on va en reparler puisqu'il y a une campagne qui va démarrer aussi au sein d'Amnesty France dans peu de temps qui s'appelle la campagne, en anglais ça s'appelait Brave, en français ça a été traduit par la défense des défenseurs et on va se mobiliser pour la défense de tous les gens qui s'investissent pour défendre nos droits à nous. Voilà.
Et là, donc, j'étais en Amérique du Sud et là j'ai fait un petit tour
tu
en Afrique.
Tu y restes ? Ouais.
Non, je vais revenir après.
D'accord, oui, je sentais bien.
On voyage.
On a besoin de chaleur. Hein.
Donc là, je vais pour une bonne nouvelle en Gambie. Donc, en Gambie, comme tout le monde sait, c'est en Afrique.
Oui, c'est vrai.
Alors, en haut, en bas, au milieu.
Comment c'est pas en Asie, la Gambie ?
En Afrique de l'Ouest.
Ah ouais, sur le grand côté, là, voilà. Au milieu. Hop.
Oui.
Donc, près de la moitié des 18 pays d'Afrique de l'Ouest ont désormais aboli la peine capitale, il faut savoir. Il n'y a pas si longtemps, l'abolition de la peine de mort en Gambie semblait utopique. En août 2012, sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh, 9 prisonniers ont été exécutés en une nuit. Ni leur famille ni leur avocat n'avaient été prévenus et l'Organisation des Nations Unies a qualifié cet homicide d'arbitraire. Comme toute attente, le 18 février donc de cette année, à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Adama Barrow a annoncé un moratoire officiel sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort. Tardivement mais résolument, la Gambie s'apprête à abandonner ce châtiment cruel, inhumain et dégradant. Et près de la moitié donc, des 18 pays d'Afrique de l'Ouest ont désormais aboli la peine capitale.
Donc ça prouve que la peine de mort continue à régresser, tant mieux.
Mais par contre, en lisant l'article, je me suis posé une question, parce qu'ils disent qu'il y a 18 pays qui sont d'Afrique, mais il y en a combien en fin de compte en Afrique ?
De pays en Afrique ?
Ouais.
Oh, ça, j'en ai pas la
moindre idée. Le pourcentage.
Ah, c'est un quiz pour la prochaine radio.
Si les auditeurs ont la réponse, voilà. Voilà. Non, je ne sais pas combien il y a de pays en Afrique.
En plus, ils disent 18 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont aboli la peine de mort.
Oui.
Donc, je ne sais pas du tout quel pourcentage ça peut représenter.
Je ne sais pas non plus.
Voilà. Mais enfin, on va chercher.
Mais c'est vrai que c'est un continent qui a commencé à l'abolir très tardivement par rapport à d'autres.
Tout à fait.
Bon, tu nous appelais à agir aussi, j'ai cru comprendre.
Tout à fait.
Tu
et là, vas demander aux gens, je retraverse l'Atlantique.
Voilà, tu vas demander aux gens qui nous écoutent de se mobiliser pour nous.
Tout à fait. Donc, je retourne en Amérique du Sud et plus précisément au Pérou. Donc, au Pérou, justement, il y a des militants écologistes qui sont menacés. Des trafiquants présumés harcèlent et menacent les membres du Front de défense Sauvons Chaparri, qui vise à protéger la réserve écologique de Chaparri au Pérou. Ceux-ci craignent pour leur sécurité. En janvier et février 2018, les membres du Front de défense Sauvons Chaparri ont indiqué à Amnesty International que des personnes les harcelaient et les menaçaient de les attaquer ou de les priver de leurs terres et qu'ils étaient surveillés par des trafiquants présumés dans le village de Santa Catalina de Chongoyapé, à l'intérieur de la réserve écologique de Chaparri. Donc en fin de compte, c'est tout simple. Si vous voulez participer à cette action, vous nous envoyez un petit message donc dessus notre adresse mail que va nous dire... Par hasard,
bah, je peux la dire, oui, ça je le connais. Ce n'est pas voilà. Les pays d'Afrique, mais ça s'appelle Amnesty avec un Y à la fin, @evreux@gmail.com. Donc vous nous envoyez vos coordonnées et on vous envoie l'action à faire. C'est un courrier à poster. Et avec le texte, évidemment, qu'on vous fournira tout prêt.
Donc en fin de compte, on demande donc au ministre de l'Intérieur donc du Pérou à ordonner des mesures de protection afin de préserver l'intégrité des membres du Front de défense Sauvons Chaparri. Voilà.
Et donc, plus on est nombreux à écrire, plus on a d'efficacité.
Et donc ça correspond un petit peu à la première bonne nouvelle que j'avais dit par rapport à l'Amérique du Sud, parce qu'en fin de compte, c'est des défenseurs, ils veulent sauver leur terre.
Voilà, et il faut leur faire un soutien, parce que c'est très
important.
Aujourd'hui,
on se rend compte que dans le monde, en fin de compte, que toutes les personnes qui essayent de sauver l'environnement... Bah voilà,
ça devient les nouveaux méchants. Bah mais ouais, les nouveaux méchants, s'ils embêtent les multinationales, si le terrain a plus de valeur que ce que les populations veulent les garder en terrain...
Je pense qu'il vaut mieux, pour certaines personnes, il vaut mieux détruire un terrain et construire des buildings, par exemple.
Voilà, ou aller creuser une petite mine, quelque chose comme ça. Et c'est surtout des entreprises multinationales à ce moment-là, et avec l'accord de l'État ou forcé par l'État.
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et quand même en 2017, il y a quand même 197 personnes qui ont été tuées, et défendaient l'environnement.
Oui, bien sûr, c'est des chiffres qui vont en empirant aussi. Quoi. Mmh. On parlait au début de l'émission de solidarité, il faut être effectivement solidaire de ces gens-là qui se mobilisent pour défendre leur propre droit à vivre dignement là où ils sont.
Voilà, et ce qu'on peut faire quand tu dis écrire, c'est que toute lettre envoyée là-bas, donc une vraie lettre avec une vraie enveloppe, on peut faire aussi des mails, mais la lettre, elle a encore son poids parce qu'elle est visible. Mmh. Et pour les défenseurs et leur famille, bon, ça leur fait de la visibilité. Regardez, à l'étranger, ailleurs, ils savent ce qui se passe chez
eux. Le fait pour eux au Pérou de savoir justement qu'en France, des gens qui se mobilisent, je pense que ça va être quand même très très important.
Voilà. Et pour nous, c'est facile.
Donc
pour eux, c'est très important.
À nous envoyer un petit mail et faire l'action.
Tout à fait. Donc amnesty.evreux@gmail.com. On va revenir chez nous et pour une information qui est aussi assez inquiétante. C'est paru dans la dernière chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. On ne peut que vous recommander encore une fois sa lecture. Vous pouvez vous abonner en allant sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous avez tous les renseignements. Et cet article-là, ça s'appelle « Les fouineurs du numérique ». Le sous-titre, c'est « État parano et géants du web espionnent nos vies privées ». Donc c'est un dossier qui a été fait, qui est très bien documenté. Je vais juste vous lire le début. Ceux qui sont intéressés, ils iront sur la chronique la suite. Et ça commence comme ça. Une caméra juchée sur votre épaule scrute vos moindres faits et gestes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les autorités collectent, stockent, analysent à votre insu l'intégralité de vos données Internet et de vos conversations téléphoniques. Ils partagent sans vergogne avec les services de renseignement de pays étrangers, régimes autoritaires compris. Les citoyens présumés coupables, sous étroite surveillance, hésitent à taper dans un moteur de recherche le mot « terrorisme » ou « attentat » par peur de représailles. Outre-Manche, cela n'a rien d'une fiction. Outre-Manche, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Adopté en Grande-Bretagne en novembre 2006 pour lutter contre le terrorisme, l'Investigatory Power Act, ou IPA, suscite de vives inquiétudes. Surnommé par les Anglais « Snooper Charter », la charte des fouineurs, la loi octroie des pouvoirs de surveillance élargis aux forces de police et services de renseignement britanniques. Elle permet par exemple de pirater les ordinateurs et les smartphones de tous les citoyens du pays pour accéder à leurs informations personnelles, qu'ils soient ou non considérés comme des suspects. Cette collecte massive ouvre aujourd'hui au gouvernement l'essentiel de la vie privée des Britanniques. Appartenance religieuse, affinité politique, sexualité, genre, centre d'intérêt. Mais aussi potentiellement des informations sur leurs découvertes bancaires, la chansonnette qu'ils entonnent sous la douche au réveil, les détails de leur dernière conversation avec leur médecin traitant ou l'agencement exact de leur appartement grâce aux données transmises par leur aspirateur connecté ou les caméras nichées dans les jouets de leurs enfants. Jusqu'à présent, nous vivons dans une société où l'on était considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais depuis l'entrée en vigueur de l'IPA, donc de cette fameuse loi, on a l'impression que tout le monde est coupable sans avoir jamais commis le moindre crime ou délit. Et un tout petit peu plus loin, et je m'arrêterai là, il y a une personne qui s'occupe effectivement dans une ONG de lutter contre cette loi qui dit « Ce n'est pas en espionnant les gens que l'on empêchera de nouveaux attentats. » La question essentielle n'est donc pas de savoir si l'on dispose de suffisamment d'informations, mais de savoir comment ces informations sont utilisées. Constat similaire du côté de Jim Kilock, convaincu qu'il faut s'attaquer aux causes du terrorisme pour espérer l'éradiquer, car c'est un problème politique. Et d'ajouter, l'histoire nous a appris qu'il était possible d'éliminer le terrorisme, les vagues de violence finissent toujours par s'arrêter. En Angleterre, en Irlande du Nord ou sur la côte basque, les négociations politiques ont toujours débouché sur des cessez-le-feu. La croisade anti-chiffrement du gouvernement britannique serait donc c'est la croisade dont on parlait, hein, l'espionnage généralisé, serait donc non seulement inefficace, mais pourrait aussi bénéficier aux terroristes et aux criminels. Voilà, donc si vous voulez savoir la suite, ben on vous renvoie sur la chronique. Effectivement, cet article fait à la fois en partie froid dans le dos, mais en partie, effectivement, à la fin, il donne des informations plutôt positives aux gens qui réagissent par rapport à ça, et aussi aux possibilités d'utiliser des logiciels chiffrés pour se protéger. Mais donc, maintenant, c'est ce qu'il faut retenir. Les lois, et en France, on suit exactement le même parcours, les autorités françaises, la même logique. On n'est plus innocent jusqu'à temps qu'on prouve la culpabilité. On est coupable d'abord.
Oui, puis on est tous Google, Facebook, et on voilà, on sait très bien comment ça fonctionne. Hein. Il y a aussi une petite article sur la Chine aussi,
oui, tout à fait.
Qui est au top. Alors là, vraiment, les systèmes pour espionner, voilà. Eux, ils développent
déjà effectivement un système de notation par citoyen grâce à Internet.
C'est trop bien. On aura le droit des choses que si on a des bonnes notes.
Mais
moi, je crois qu'on n'aura pas les bonnes notes. Nous, là, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Bah non, on est comme disait Martine tout à l'heure dans l'interview, on est des terroristes déjà, donc voilà, forcément. Mais Yamina qui voulait peut-être vous parler de culture, non ?
Oui,
de
culture. Je vais partir en Amérique avec l'essai de Ta-Nehisi Coates, une colère noire, lettre à mon fils, avec une préface d'Alain Mambouctou. Alors je vais vous lire le résumé de Télérama sur l'essai. C'est à une série de gouffres que s'attaque une colère noire. Celui qui sépare d'abord le miracle du rêve américain, son prétendu confort égalitaire et protecteur, de la réalité de l'injustice et de la peur ressentie par l'auteur tout au long de sa vie. Une insécurité physique, viscérale, terreur pure de la désincarnation, de la perte de mon corps. Allant de la violence de la rue, des couteaux et armes à feu aux arrestations et fouilles arbitraires, en passant par le tout venant des vexations raciales. Ainsi, cette femme qui par une petite tape dans le dos doublée d'un « allez » s'en prend au fils de Ta-Nehisi Coates qui, à l'âge de 5 ans, lambinait dans un cinéma. Cette permanente dépossession de soi est un héritage de la fabrique raciste, autre gouffre qui désunira à jamais les Noirs des Blancs. Ils ont transformé nos corps pour en faire du sucre, du tabac, du coton et de l'or. N'oublie jamais que nous avons été esclaves dans ce pays plus longtemps que nous n'avons été libres. Cette longue histoire pleine de cicatrices ne souffre aucune compensation. Dans ce livre, passation générationnelle si tragique, le père ne laisse donc pas d'espoir à son fils qui aura toujours le vent de face et les chiens sur les talons. Ne détourne jamais les yeux de cette réalité. Les victimes se nomment Michel Brown, Eric Garner ou Trayvon Martin. Gouvernée par un président noir, l'Amérique a connu une recrudescence de violences perpétrées par des policiers souvent acquittés, meurtres racistes systémiques, carburant qui alimente encore et toujours la machine américaine de destruction du corps noir. Ce gouffre, c'est finalement celui qui sépare l'auteur du monde, vertige que Ta-Nehisi Coates a choisi dans ses articles et essais de décrypter sans passer sous silence la froideur qu'il a par exemple ressentie dans les ruines du 11 septembre. J'avais mes propres désastres à affronter. Voilà pourquoi le titre américain « Between the World and Me », entre le monde et moi, s'avère bien plus riche que le cliché français de la colère noire. Sans compter que la figure du black enragé, homme ou femme, est l'un des stéréotypes racistes les plus tenaces outre-Atlantique. Si l'écriture compense en partie la blessure de la dépossession de soi, c'est qu'elle s'incarne dans l'épaisseur d'une vie qui éclot dans le Baltimore des années 1970, se confronte à la rue et à l'école, les deux bras d'un même monstre, à l'identification avec Malcolm X, pour trouver une voie à l'université Howard à Washington, la Mecque, carrefour de la diaspora noire, puis dans le journalisme. Jusqu'à cette déclaration d'amour désespérément lyrique à son fils, je dois survivre pour toi. Voilà, si ça vous donne envie de le lire, bel essai.
Tu nous rappelles le titre ?
C'est une colère noire, lettre à mon fils.
D'accord.
C'est aux éditions Autrement. Et ça a eu le prix National Book Award 2015 avec une préface d'Alain Mambokou.
Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies.
Oui, et même les bonnes bibliothèques.
Et tu sais de dont tu parles.
On peut l'emprunter à la bibliothèque, c'est ça,
voilà,
Nina, tu veux nous
ça.
Dire. Bon. Et tu avais une autre chose, je crois, sous le coude pour la culture, non ?
Oui, j'ai des sorties films. Donc il y en a un qui est déjà sorti, Jusqu'à la garde, justement, après le 8 mars. Un film qui parle d'une séparation d'un couple et d'une... pas une bagarre, mais un retour du mari, des peurs, de la violence, mais violence, comment dire ?
Verbale ?
Non, silencieuse.
Silencieuse, ah oui, un climat violent.
Voilà. Donc ça s'appelle « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand. Je vais vous lire le résumé, c'est sorti le 7 février.
D'accord.
Vu que je ne l'ai pas vu, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, je vais vous dire le résumé.
Bien sûr. Non,
mais vous n'en avez pas entendu parler ?
Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, c'est vrai. Hein.
Alors, ce premier long métrage conjugue avec brio drame social et thriller. Dès la scène d'ouverture dans le bureau d'une juge aux affaires familiales, le spectateur est mis sous tension. Un couple se dispute la garde de leur fils de 11 ans. Les joutes oratoires entre les deux avocates des parties sont électriques. Myriam, interprétée par Léa Drucker, accuse son ex-époux de violence. Mais Antoine, le mari, remarquable, Denis Ménochet, aux allures de nounours bourru, ne laisse rien paraître. Le doute est permis. La juge accorde la garde partagée. Le piège se referme alors sur Myriam et ses deux enfants. Cadenassé dans sa douleur et sa rage d'avoir perdu celle qu'il pensait posséder sous prétexte d'aimer, Antoine empoisonne leur vie. Il manipule, traque, fait le vide autour de lui. Même ses parents finissent à contre-cœur par jeter l'éponge. Les scènes entre ce père au comportement impulsif et le fils, mutique car pris en otage, instillent progressivement l'effroi, comme dans un film d'épouvante. Le cinéaste confie d'ailleurs s'être inspiré de La Nuit du Chasseur de Charlton et de Shining de Stanley Kubrick. La quasi-absence de musique, laissant place à des sons du quotidien amplifiés, entretient ce climat anxiogène, tandis que l'espace de vie du trio, la mère, la fille, le fils, se réduit jusqu'à la scène finale. Soigneusement documenté, mais sans jamais tomber dans le film dossier, ce premier long métrage, Lion d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Venise, est une plongée dans la folle spirale de la violence conjugale. Voilà. Et pour ce soir, je vous laisserai sur ces deux belles œuvres, un film et un essai.
Ben écoute. On ira lire le film et on ira voir le livre. Non, c'était le contraire.
C'est ça, tout à fait.
On espère qu'il passera sur Évreux, voilà.
Mais pour l'instant, il passe pour...
Non, oui, non, je pense qu'au niveau du titre...
Mais bon,
peut-être.
On reverra les gens au programme du cinéma. Donc, on s'écoute quelques...
Oui, musique.
C'est l'heure, quelques mesures musicales.
Tour des beaux jours et de la saison des amours. Champêtre, l'alouette et l'hirondelle, le merle et les moineaux chantent à tue-tête. Les traits tirés devant la glace, besoin d'espace et d'air pur. J'ai tout plaqué et pris la clé des champs pour m'évader dans le grand bleu d'azur. Sous l'étendard bleu du ciel, mon âme ouvre ses ailes au baiser du vent. Les cerisiers la belle du printemps. Seul, je prends la route chat, sans tous les doutes qui s'attaquent à ma voix. La tête dans les nuages, l'esprit libre et volage, j'entends battre mon cœur. J'adore me balader seul dans les châteaux hantés par des poètes. Le corps secoué de frissons en leur chantant tout ce qui me passe par la tête. Loin de la folie, des grandeurs, étranger à toute illusion, je trace mon chemin, balade un vagabond. Ni pour rien, ni pour personne. Seul, sans rien qui fâche, libre et sans attache, que la vie qui s'en vient. Un sourire aux lèvres, le cœur plein de rêves, et qui m'attend, et qui m'entend, et qui me tord les bras. Ouais, yeah.
Voilà, c'était Jacques Higelin, de retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty Évreux, une chanson qui était consacrée au retour du printemps. C'était pas les droits humains, mais c'est important aussi le retour du printemps.
Il est voilà. Quand le retour du printemps?
Bientôt. Y avait Renan qui voulait vous redonner encore, mais très rapidement, une bonne nouvelle, parce qu'on n'en manque pas.
Je vais prendre mon temps.
Oui.
Non, justement... un transfert grâce à vous. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est, on va parler d'un coq, on a parlé pendant les 10 jours.
10 jours pour signer.
On a été plus de 60 000 personnes à demander à ce que Mahedin soit transféré à la prison d'Amsimene afin qu'il puisse recevoir les soins médicaux dont il avait besoin de toute urgence.
Absolument.
Et maintenant, c'est chose faite.
Il y est.
Il est dans quel pays?
Au Tchad.
D'accord, encore l'Afrique.
Donc l'Afrique. Il a effectivement été transféré pour raison médicale, c'est ça?
Tout à fait.
Il va être soigné, même s'il est toujours emprisonné.
Mais déjà, on demandait qu'il soit transféré. Donc c'est un transfert qu'on appelle ça grâce à vous. Donc ça marche.
Bien sûr. Edith,
moi j'ai envie de parler.
Tu voulais nous parler d'un conflit social, je crois.
Oui, d'un conflit social. Maintenant, je fais syndicaliste aussi en plus.
C'est ça.
Bah, Samy n'est pas là, donc je continue. Non, mais j'ai entendu. Je suis pas forcément l'actualité. J'écoute pas tous les infos de la télé et tout ça. Et j'ai entendu l'autre fois dans une émission de France Inter, donc je vais la citer, comme un bruit qui court, qui passe le samedi après-midi à 15h, je crois à peu près, ou 16h.
De 15h à 16h.
Voilà, et donc vous pouvez écoutez, c'est l'émission de samedi dernier qui parlait de la grève du CNDA. Alors la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. C'est-à-dire c'est l'endroit qui instruit les recours après la décision de l'OFPRA. Donc je vous rappelle le chemin du demandeur d'asile, il amène son dossier à l'OFPRA, l'OFPRA donne dit oui ou non, et il a une possibilité de recours à la CNDA. Alors la CNDA, elle dit, nous on est la deuxième chance. Les demandeurs qui n'ont pas été en capacité de s'exprimer ou vraiment de donner les raisons de leur demande, ou on n'a pas bien suivi ce qui s'est passé dans leur pays au moment où ils en sont partis, peuvent faire appel à la CNDA, donc c'est vraiment une instance légale très très importante, et bien ils sont en grève. Alors ils sont en grève pour deux raisons. Donc vous avez parlé de cette loi, nouvelle loi au sujet de l'immigration qui va passer, je regarde Didier, c'est en mars,
en avril.
Au niveau de,
elle doit être votée en avril.
Au niveau du Parlement.
On va en reparler parce qu'Amnesty a complété ses critiques.
Voilà, toutes les ONG, dont Amnesty, toutes les ONG qui s'occupent de défense des droits humains, ont vraiment beaucoup de réticences, beaucoup d'inquiétudes.
Ah, c'est plus que des réticences, ça c'est clair. Oui.
Voilà, parce qu'effectivement, il y a un critère de temps raccourci, déjà, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, parce qu'il me semble aussi, donc vous savez bien que si vous écoutez l'émission d'Amnesty sur Principe Actif, on est déjà tous persuadés de ce qu'on dit est vraiment très très important, mais là c'est encore le fait que ces personnes soient en grève contre la loi. Parce qu'ils considèrent qu'effectivement ça ne va plus leur permettre d'être vraiment sereins pour faire une étude correcte des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ça, ça me semble excessivement important. Donc, j'ai écouté l'émission. Il y a aussi, ils demandent plus de moyens, c'est un fait aussi. Mais c'est ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est qu'ils veulent défendre l'essence du droit d'asile qui est héritier des conventions de Genève. Donc ça, c'est effectivement très important. Et il y a aussi les avocats qui sont spécialisés pour les personnes qui demandent l'asile. Donc, ils font partie d'un réseau, Elena. Eux aussi rejoignent ce mouvement pour eux-mêmes, mais aussi en accord avec le CNDA. Donc, ils sont en grève quand même, pour vous dire un peu. Ils sont en grève depuis le 13 février. Donc, j'ai essayé de chercher si la grève perdurait jusqu'à maintenant. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Internet. Ce que je sais, c'est que le 7 mars, tous les avocats étaient devant l'Assemblée nationale avec une délégation de la CNDA pour aussi dire leur inquiétude, car pour eux, ce sont des vies qui sont en jeu. Et les personnes qui quittent leur pays dans des situations difficiles ne le font pas pour leur plaisir. Et ils demandent une protection à la France. Et c'est de notre devoir que cela soit fait dans de bonnes conditions. Il y va de la crédibilité de notre pays. Et quand ils se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, c'est aussi une autre réflexion. C'est-à-dire que en off ou individuellement, certains parlementaires étaient réticents pour voter pour la loi, mais la plupart ont dit qu'ils allaient prendre la décision d'être comme celle du parti En Marche, c'est-à-dire du parti de notre président. Et ça semble excessivement dommage qu'il n'y ait pas...
C'est la discipline de parti, c'est
voilà.
Ça.
Donc je pense qu'en plus, là, moi, ça va être mon appel à action, là, je fais la concurrence à Ronan, c'est que chacun d'entre nous, on peut écrire à notre député en lui disant « Vous en êtes où ? Pensez-vous vraiment que c'est une si bonne loi ? Moi, je pense qu'il faut au moins qu'elle ait des amendements et qu'on ne peut pas la voter en état. »
Ben, c'est une loi qui, dans sa finalité, en fait, remet en cause un certain nombre de mesures qui sont du ressort de la solidarité, comme on disait au début. Et comme dit aussi Amnesty, une réflexion très juste par rapport à tous ces problématiques-là. Le droit d'être réfugié, c'est le dernier droit qui reste quand on a perdu tous les autres.
Voilà. Et ce droit-là, il est absolument obligatoire à faire vivre et à perdurer dans nos démocraties.
Voilà, donc par rapport à ce que vient de dire Edith, il y a une petite information, on va être très très bref parce que là on va passer aux infos locales, et on en a beaucoup. Juste une petite information sur une publication, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Le guide du réfugié » et auquel Amnesty, avec beaucoup d'autres ONG et associations, a participé, et qui fait le point sur toutes les mesures légales, comment faire en France quand on est réfugié, etc., sur un tas de plans. Alors ça reprend... le livre revient sur les problématiques principales auxquelles sont confrontés les réfugiés, leur statut, leur carte de séjour, l'état civil, l'apprentissage de la langue française, les aides financières, les banques, le logement et domiciliation, l'emploi, la santé, la naturalisation, etc., etc. Donc ce guide fait le point sur toutes ces problématiques-là. Et il est disponible, alors il est en 4 langues, il est en français, en anglais, en arabe et en russe. Et il est disponible gratuitement sur Internet. Hein, je l'ai téléchargé, moi, cet après-midi. Et ça s'appelle très simplement « Le guide du réfugié tout attaché sans accent .com ». Le guide du réfugié .com. Il est gratuit sur Internet. Et il est également disponible au prix coûtant. Je crois qu'il coûte 5 euros sous forme de bouquin. Je me disais, mais là, on n'en a pas encore parlé au niveau du groupe, mais ce serait peut-être bien qu'on en achète quelques exemplaires et qu'on puisse distribuer autour de nous ou l'avoir à disposition pour les gens qui sont à Évreux et qui sont en statut de demande de réfugiés, parce qu'il fait le point sur tout ce qui est démarche légale pour obtenir ce statut, et c'est très utile, c'est même indispensable.
On peut chacun en télécharger un aussi?
Ah, tout à fait.
Mais le trésorier va réfléchir si on l'achète ou pas.
Voilà. Mais je vous rappelle de toute façon le site où vous pouvez le récupérer entièrement gratuitement, leguidedurefugié.com, et c'est une très très bonne initiative d'un tas d'ONG françaises, dont Amnesty. Voilà. Les infos locales.
Infos locales.
Donc, c'est Edith qui va faire la première, puis on va se les passer parce qu'on en a plusieurs. Vas-y.
Alors, celle-là, c'est pour demain. Alors, attention, vous notez 14 mars 2018 à
15h.
Oui, je ne le trouvais pas là. 15h devant la préfecture. C'est un communiqué CFED d'Asti d'Évreux. Toute personne à la rue est potentiellement en situation de détresse et doit pouvoir bénéficier d'un toit. Il est de la responsabilité de la préfecture de l'Eure d'héberger les personnes sans-abri et vulnérables et d'assurer une prise en charge inconditionnelle et immédiate pour avoir un toit. Le CFED Asti d'Évreux appelle à participer au rassemblement devant la préfecture à Évreux le 14 mars à 15h. Alors c'est par rapport à la situation des familles en grande précarité, aux mineurs isolés, des familles de migrants. Et effectivement, vous avez parlé qu'il y avait eu un hébergement sur Évreux qui s'était fait dans un gymnase, après oui. dans des hôtels.
De toute urgence d'hébergement d'ailleurs, voilà.
Voilà, mais maintenant la période hivernale se termine et tout peut être mis en cause. Donc il faut qu'on soit très nombreux. On n'accepte pas ce qui se passe et on demande au préfet de l'Eure d'agir pour que toute personne, quelle que soit sa situation administrative, administrative, c'est-à-dire que débouté du droit d'asile aussi, c'est-à-dire puisse bénéficier d'un toit. On ne demande pas les papiers, on ne demande pas où ils en sont dans leur démarche, on leur permet d'avoir un toit. Voilà, donc voilà, venez.
Donc tu rappelles, c'est demain
les Demain, 15h, 15h, c'est où
Devant la préfecture.
Devant Évreux. La préfecture, à Évreux, voilà. Bon, alors deuxième info, pour toujours avec nos amis du CFED, on vous rappelle qu'ils font une journée d'information.
Journée festive.
Festive, le samedi 17 mars à 17h, donc samedi prochain, à la maison de quartier de la Madeleine. Il y aura des tables rondes, des échanges, une vente aux enchères solidaires qui permettront effectivement de récupérer de l'argent pour le CFED et pour l'aide aux réfugiés. Et après, à partir de 20h, une soirée festive où il y aura de la musique, du théâtre et bien sûr à manger.
Un repas partagé.
Voilà. Et le CFED appelle cette journée, effectivement, 20 ans de solidarité avec toutes les immigrés. On parle encore une fois de solidarité. La manifestation suivante, Médite.
Alors, RESF, donc RESF, collectif par rapport
au Réseau Éducation sans frontières,
a le plaisir de vous inviter à une assemblée géniale et extraordinaire le samedi 24 mars.
Donc, c'est
de
8 jours
16
après celle du CFED.
À 22h, maison de quartier. Même endroit. Manifestation réflexive et festive pour le respect des droits des migrants, des livres, des expositions, de la musique, des témoignages, un colloque, un bon buffet et de l'amitié. Voilà.
Et ensuite.
Alors ensuite, on tourne la page et c'est pas dans le bon sens. Didier, il n'a pas tout agrafé
c'est
pareil.
Pas grave, mais si. Ensuite, on a le week-end le week-end du 24, samedi 24 et dimanche 25 mars. Foire au livre de nos amis d'Amnesty
Louvier-Val-de-Reuil.
C'est au lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil,
comme d'habitude.
Depuis longtemps. Et la foire au livre sera ouverte le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Il y aura des milliers de livres à vendre en soutien à Amnesty. N'hésitez pas. Lycée Marc Bloch, samedi 24 et dimanche 25 mars.
Et des pétitions à signer.
Et nous, je vais oublier de noter ça, dis donc. Nous, on est aussi présents au cadran. Le samedi, le 20 et le 21, t'as raison.
Mercredi, jeudi,
20 et 21 mars, on est présent au cadran autour du spectacle Tristesse. Et si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas, on y sera. On allait carrément oublier nos propres initiatives. Et enfin, le dernier événement local, parce que, encore une fois, on en a beaucoup, on vous le rappelle.
C'est sur la région, là, voilà.
C'est sur la région.
C'est un peu plus loin.
C'est à Rouen, et c'est la journée Forum des droits humains, lutter contre la pauvreté et les inégalités, organisée par Amnesty Haute-Normandie.
Mardi.
C'est au Conseil Général de Rouen, 5 rue Robert Schumann. Et c'est le mardi, donc mardi 20 mars, de 9h30 à 17h30, avec un tas d'intervenants. Sur les thèmes, on peut juste en citer quelques-uns. Lutter contre la pauvreté, vision et mission d'Amnesty International, présentée par le vice-président d'Amnesty France, Francis Perrin. Après, une autre intervention, la pauvreté vue des beaux quartiers de Paris, par Bruno Cousin. Et la troisième, on va s'arrêter là, le Louis Morin, qui est le directeur de l'Observatoire des inégalités, interviendra sur le thème « Comment et pourquoi observer les inégalités en France ?». Voilà, donc on vous rappelle le thème général, journée qui va être absolument passionnante.
Alors,
lutter contre la pauvreté et les
inégalités. On leur fait un résumé.
Le mardi 20 mars.
Et c'est gratuit en plus.
On manifeste. Demain, il fait beau, c'est sûr.
À la préfecture.
On peut y aller.
Devant la préfecture.
Samedi prochain, le CFED. Le samedi d'après,
le RESF. Tout ça à la maison de quartier de la Madeleine.
Et entre-temps, le 20.
Le 20 et le 21. Oui, le vin, pardon. Le vin à Rouen, on se perd dans les dates. Voilà. Le vin à Rouen.
Le colloque, le forum des droits humains.
Le forum des droits humains.
Et nous, participation.
Et nous, le lendemain et le surlendemain, le 20 et le 21.
Spectacle, je peux me permettre. C'est le 21 et 22 pour le spectacle Tristesse. C'est le mercredi et jeudi.
Ah, ah moi, j'avais les bons jours, mais pas les bons chiffres. Oh, bon, là, bon. Merci, Mina.
Bon, ouais. Alors, répète-nous les dates pour la semaine.
21 et 22 mars pour le spectacle Tristesse.
Voilà.
Mais c'est la culture qui parle.
Enfin, c'est le lendemain du colloque à Rouen, de toute façon.
Et le 24 et 25, il y a la foire au livre.
La foire au livre. Renan, ça y est, on a tout dit.
Bon.
Je pense qu'on a dû faire le tour.
Notre prochaine émission, c'est quand ?
Le 27 mars.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait. 19, allez, on peut dire au revoir.
19h à 20h sur l'antenne de Principatif. On vous rappelle qu'il y a tous les podcasts des émissions disponibles sur le site de principatif.net.
Partout
dans et il y a notre ami qui vient d'arriver. On lui souhaite une bonne émission pour le laboratoire.
Sortez d'oubli les personnes.
Voilà.
Allez,
bientôt.
Allez, à la prochaine.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres.